J'aimerais te dire merci pour ces moments merveilleux, extraordinaires, ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de t'encenser avec notre louange et notre adoration. Merci, ô Dieu, de ce que tu as accueilli favorablement l'expression de nos sentiments, tu as accueilli favorablement les paroles qui sont sorties de nos bouches. Merci, ô Seigneur, de nous aimer autant et de nous donner tant d'occasions pour, Seigneur, nous approcher de toi, afin de te donner l'occasion de poursuivre cette œuvre de restauration, de renouvellement, ô Dieu, afin, ô Seigneur, là en ta présence, tu poursuives cette œuvre qui consiste à nous faire ressembler au modèle parfait, qui est toi et toi seul. Seigneur, merci, merci pour tout. Nous voulons maintenant te donner l'occasion, Seigneur, de nous parler. Et te prions, Seigneur, par la même occasion, de disposer nos cœurs à recevoir, à accueillir favorablement ta parole. Éloigne de nous toute pensée de distraction. Renverse tout obstacle, Seigneur, qui serait dans nos cœurs. Oh, nous voulons être tout ouïe, Seigneur. Être devant toi, concentré, prêt à manger, Seigneur, la moindre parole qui sortira de ta bouche. Parle-nous, fais-nous du bien, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Bien, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et revenir une fois de plus, je crois, une dernière fois, enfin, pour terminer, avec ce thème qui nous accompagne depuis de nombreux dimanches. C'est un thème si important que je me suis permis de prendre autant de temps pour permettre à chacun de nous de réaliser sa responsabilité vis-à-vis du corps du Christ, afin de permettre à chacun de nous de comprendre que l'unité spirituelle est vraiment dans la volonté de Dieu pour son peuple. Voyez-vous, nous appartenons à l'Église du Seigneur, dont il est la tête. Nous sommes membres les uns les autres de ce corps qu'est son Église, et par conséquent, eh bien, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions tout faire pour créer un contexte, pour créer une atmosphère qui nous permette, mes amis, d'avoir, de développer des rapports harmonieux et nous permettre ainsi d'expérimenter l'unité spirituelle et tous ses bienfaits. Gloire au Seigneur. L'importance de l'unité spirituelle, chapitre 6, hein, c'est ça, hein? Voilà. Parfait. Nous allons cette fois-ci aller dans l'Ancien Testament et nous allons essayer de nous inspirer d'un mobilier qui occupait une place importante dans le tabernacle. Nous sommes encore avec le peuple d'Israël au désert. Le peuple est en route vers le pays promis, ce pays de coulant de lait et de miel. Et bien un moment, le Seigneur va donc s'adresser à son peuple via Moïse et va lui demander de lui construire une tente, la tente de la rencontre ou le tabernacle. Voyez-vous, et dans la parole de Dieu, nous trouvons beaucoup, beaucoup de choses sur la construction, beaucoup de descriptions des différents éléments qui devait constituer le mobilier, mes amis, de ce tabernacle. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer, justement, d'un élément important dans la description, eh bien, du mobilier, de tous ces éléments qui devaient constituer, mes amis, ou qui devaient occuper une place importante au tabernacle, et par conséquent, occuper une place importante dans le culte d'Israël envers Yahvé, envers Adonai. Nous allons lire dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Nous allons faire une longue lecture qui vaut la peine, comme ça, ça va nous permettre de comprendre. Nous sommes là, donc, dans les ordres que Moïse va recevoir de la part du Seigneur concernant la construction du tabernacle de sa maison. Exode 25, à partir du premier verset, nous lisons, L'Éternel ou le Seigneur ou Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze. Des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral, c'est-à-dire l'habillement du souverain sacrificateur. Verset 8, ils me feront un sanctuaire. Et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout, et je pourrais ajouter absolument tout, selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, une coudée valant à peu près 0,45 cm, c'est ça la longueur d'une coudée. De là jusque là, comme ça. C'était une mesure à l'époque, donc à peu près 45 cm. Donc, sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fonderas pour elle, pour l'arche évidemment, 4 anneaux d'or et tu le mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, donc les tables de la loi. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie, donc la même dimension que donc l'arche. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu le feras d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce, avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et le verset 22, je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Et le dernier verset, c'est le verset 40. Toujours du chapitre 25. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc, si je peux me permettre de vous rappeler, nous sommes le 20 mars, l'avant-dernier dimanche de ce mois consacré évidemment à la femme. Et en ce jour, en ce dimanche, j'aimerais revenir une fois de plus, comme je l'ai souligné, sur notre thème, pour que chacun de nous réalise encore une fois son importance, sa nécessité. Le but ici, c'est d'amener chacun de nous à comprendre qu'il a un rôle à jouer dans le développement, dans le maintien de l'unité au sein du corps du Christ. Et gloire à Dieu. Nous avons vu en plus d'une fois la volonté du Seigneur, d'abord pour Israël, le peuple de l'ancienne alliance, et puis ensuite pour le peuple de la nouvelle alliance que nous sommes, sa volonté est on ne peut plus claire que son peuple soit uni. Alléluia. Que son peuple soit un. Que l'unité spirituelle soit une expérience que son peuple, mes amis, fait à chaque instant de sa vie, que l'unité spirituelle puisse faire partie, mes amis, de nos obligations, de nos priorités, pour que le corps du Christ reste uni. Cette unité, nous l'avons souligné, est essentielle et même impréalable. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu sur nous, si nous voulons que chaque rassemblement, ici, à la borne, dans la maison du Seigneur, puisse devenir une véritable Pentecôte, il y a donc de préalables. Et parmi les préalables que nous devons rencontrer, il y a l'unité de cœur, il y a l'unité de l'esprit. Mes amis, en tant que membre du corps du Christ, de ce corps qui est l'Église, de cette Église que le Seigneur bâtit par le Saint-Esprit au moyen de sa parole, en tant que membre, nous devons savoir que nous avons un devoir sacré. Nous avons la responsabilité de nous impliquer très activement, mes amis, dans l'éclosion, dans le développement et dans le maintien de l'unité spirituelle parmi nous et au milieu de nous. Car l'unité reflète la nature même du Dieu de la Bible. Alléluia. Si nous nous réclamons du Christ, nous devrions alors tout faire, mes amis, pour vivre, expérimenter l'unité spirituelle parmi nous. Souvenez-vous, nous l'avons vu à plus d'une fois. Dans son intercession ultime en faveur de ses disciples, eh bien, le Seigneur a demandé des choses à son Père, et parmi les choses pour lesquelles il a intercédé, il y a l'unité. Au chapitre 17, il est dit lui-même, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, et qu'eux aussi soient un, comme nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, alléluia, que je suis le Messie promis depuis la chute de l'homme, là, dans le jardin d'Éden. » Dieu est donc pour l'unité spirituelle. Et si Dieu est pour l'unité spirituelle, nous devons savoir que le diable, lui, est contre l'unité. Voilà pourquoi il fait tout pour distraire l'Église. Voilà pourquoi il fait tout pour séduire les uns et les autres et dresser les gens les uns contre les autres, afin que le peuple de Dieu n'expérimente pas l'unité spirituelle. Il est contre l'unité spirituelle. Et l'unité spirituelle est dans son collimateur. Il fera tout, mes amis, pour distraire, pour essayer de diviser les brebis du Seigneur. Car il sait, mes amis, il connaît la vérité. Il sait que quand le peuple de Dieu reste uni, ils peuvent alors le mettre en déroute. Lorsque le peuple de Dieu combat d'un même cœur et d'une même âme, eh bien, laissez-moi vous dire une chose, les puissances des ténèbres reculent. Et la force du diable aujourd'hui, c'est d'avoir dressé, de dresser encore les chrétiens les uns contre les autres. À propos du diable, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 10, verset 10? Il les qualifie de voleurs. Un voleur vient pour prendre des choses qui vous appartiennent, n'est-ce pas? Que nous dit-il? Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre l'abondance de la vie spirituelle. Nous sommes les brebis du Seigneur, mes amis. Mais nous sommes appelés à demeurer unis. Le diable va combattre cette unité. Et laissez-moi vous dire une chose, il a plus d'une arme dans son carquois. Il séduit, il charme. Voyez-vous, Combien de gens un jour ont cru qu'ils étaient spéciaux? Oh, Dieu m'a dit que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis spécial. Il m'appelle à un ministère spécial et par conséquent, je dois quitter l'église, aller commencer mon ministère spécial. Si vous entendez quelqu'un tenir un tel discours, sachez qu'il est tombé dans le filet de l'oiseleur des ténèbres. Car il n'y a personne qui soit spécial dans le corps du Christ. Nous sommes tous logés à la même enseigne, l'enseigne de la grâce. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et il n'y a personne qui pourrait prétendre être spécial de par son appel. Même les apôtres, mes amis, les apôtres du Christ n'ont jamais dit qu'ils étaient spéciaux. Lisez les écrits de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, et vous verrez l'humilité, la sobriété qui a caractérisé ces gens-là. Mais aujourd'hui, des gens pensent, certains, hélas, qu'ils sont spéciaux. Il y en a qui le revendiquent du haut de la chair. Dieu m'a dit que je suis spécial. Malheureux, aveuglé, complètement obnubilé par le diable. Nous sommes des pécheurs. Et par conséquent, nous devons marcher avec ce sentiment d'humilité. Que s'il nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Pas du tout. Il peut appeler qui il veut. Ce que je fais ici, n'importe qui pourrait le faire s'il est appelé par le Seigneur. Et le diable distrait de plus en plus les gens au sein de l'Église. Il en fait des kamikazes, des terroristes, dont la vie, eh bien, sont devenues de véritables bombes à retardement. Des dynamites pour l'Église. Le voleur. Telle est donc la vocation du diable. Il vient pour voler. Nous voler ce que le Seigneur nous donne. Nous voler les bienfaits, mes amis, que le Seigneur met à notre disposition. Toutes ces grâces excellentes, ces dons parfaits. Le diable est contre tout cela. Alors il va essayer de nous voler. C'est sa vocation depuis le commencement. Il a toujours agi par tromperie, par le mensonge, hein, par la séduction. Quand vous allez au jardin d'Éden, vous remontez dans le temps, vous verrez comment cet esprit séducteur excelle dans le mensonge, comment il est le spécialiste du doute et du scepticisme. Dieu a-t-il réellement dit? L'unité spirituelle, comme je le disais, dans son collimateur. Pourquoi? Eh bien, parce que l'unité spirituelle est un état d'esprit, est une disposition de cœur, un cadre qui favorise, mes amis, l'action de l'esprit parmi nous, au milieu de nous, parce que l'unité, mes amis, amène le monde à croire que Jésus est l'envoyé du Père. C'est lui-même qui le dit dans Jean 17. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Comment expliquer que lorsqu'il y a l'unité, eh bien, les gens pourraient croire dans la messianité du Christ. Il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres et qui nous échappent. Contentons-nous simplement d'obéir à la parole, de croire ce que Jésus a dit, afin qu'ils soient un, tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'ils soient un et que le monde croie que tu m'as envoyé. Puisque l'unité spirituelle est si importante pour l'Église du Christ, eh bien, nous allons encore en parler. Et le dimanche prochain, ce sera donc le dernier dimanche, et nous allons consacrer du temps pour prier par rapport à l'unité, pour prier, pour que le Seigneur se manifeste puissamment, car je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas progresser parce qu'il y a des choses dans leur cœur. Voyez-vous? Et à cause de ces choses abominables, à cause de ces choses horribles dans leur cœur, parce que ces gens sont dans un autre état d'esprit, que celui du Saint-Esprit, eh bien, non seulement ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent pas progresser dans la vie, mais ils deviennent aussi un obstacle à l'instauration de l'unité spirituelle parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est donc un texte de l'Ancien Testament, celui que nous avons lu, Exode 25, qui va nous servir de base de réflexion à notre méditation. Dans ces passages, eh bien, nous trouvons la description de l'arche. Et en particulier, celle du propitiatoire. Et c'est le propitiatoire qui va donc nous intéresser et nous aider à comprendre et à réaliser une fois de plus, mes amis, l'importance de l'unité spirituelle pour le peuple de Dieu. Voyez-vous, a priori, cette description n'a rien à voir avec l'unité. Mais nous allons approcher ce mobilier particulier. C'était le cœur du tabernacle. Tout ce qui devait être fait avant, par le souverain sacrificateur, avant d'arriver dans le Saint des Saints, tout cela avait pour but de le préparer à rencontrer Dieu. Où, le Seigneur dit, c'est là, sur le propitiatoire, entre les deux chérubins, que je te rencontrerai. C'est là que le souverain sacrificateur, une fois l'an, à l'occasion de ce jour qu'on appelle encore le Yom Kippour, jour de l'expiration, il entrait une fois avec du sang pour ses propres péchés, mais aussi pour le péché du peuple. Il aspergeait 7 fois du sang sur le propitiatoire. Voilà pourquoi on appelle ça le propitiatoire. Et le Seigneur dit, c'est là, pas ailleurs. C'est là que je te rencontrerai. Le propitiatoire. L'arche de l'Alliance, comme source d'inspiration de l'unité spirituelle. Après avoir délivré son peuple du joug des Égyptiens, de la servitude d'Égypte, le Seigneur va conduire son peuple, et lors de son voyage vers la terre promise, eh bien Dieu va demander à son peuple de lui construire un tabernacle, de lui construire une demeure, un sanctuaire, un lieu de rencontre entre Dieu d'un côté et son peuple de l'autre côté, de lui construire un sanctuaire pour que Dieu demeure parmi le peuple d'Israël. Alléluia. S'il avait délivré, mes amis, de ce joug d'esclavage, de l'asservissement par rapport aux Égyptiens, ce n'était pas pour abandonner ce peuple en cours de route, ce n'était pas aussi seulement pour leur donner une terre qui soit à eux, où ils pourraient s'épanouir en toute liberté, mais c'était pour qu'au-delà de la terre promise, Dieu demeure parmi son peuple. C'était ça le but ultime de l'acte qu'il avait posé vis-à-vis d'Israël. Lui construire un tabernacle, afin que Dieu habite parmi son peuple, alléluia. Et cet ouvrage, c'est-à-dire la tente en elle-même, avec des rideaux, avec une entrée, très rapidement, quand on entrait dans le tabernacle, le premier élément, le premier mobilier, c'était l'autel du sacrifice. Donc la première chose qu'on rencontrait là, c'était l'autel du sacrifice pour les péchés. Le sang coulait régulièrement. Les offrandes étaient faites là. Et quand on dépassait, on se dirigeait vers le sanctuaire proprement dit. Quand on quittait l'autel, l'autre élément, c'était la cuve d'airain, la cuve de purification. Après l'expiation du péché, la sanctification, la purification, alléluia. Et le sacrificateur continuait. Et puis il arrivait au sanctuaire proprement dit. Et là, il y avait un premier voile. Il passait le voile, il entrait dans ce qu'on appelle le lieu saint. Et dans ces lieux saints, qui étaient divisés en deux, donc le lieu saint et le lieu très saint, ou le saint des saints, À chaque fois, il y avait un voile. Et dans ce lieu saint, vous aviez d'un côté, vers le nord, oui, parce que le tabernacle devait toujours, d'ailleurs même le temple de Salomon plus tard, devait toujours avoir la porte tournée vers l'Orient, là où se lève le soleil. Toujours. Quand ils arrivaient quelque part et qu'ils plantaient le tabernacle, l'entrée du tabernacle devait toujours regarder vers l'est. Et au nord, vous aviez donc la table où on trouvait du pain de proposition. Et en face, donc, vers le sud, il y avait le candélabre, ce chandelier pour la lumière. Et en face du deuxième voile, dans ce sanctuaire, il y avait donc l'autel de parfum qui devait brûler régulièrement. Et puis seulement, on passait ce dernier voile, on entrait dans ce qui s'appelait le Saint des Saints, le Débir. Là, il n'y avait pas autre chose que l'arche qui symbolisait la présence du Seigneur. Alléluia. Donc le but, pour y arriver, il fallait passer par tout cela. Et donc, le Seigneur dit à Moïse, cet ouvrage doit être exécuté selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Au verset 40, nous l'avons lu. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça veut dire que Moïse, à un certain moment, a reçu une révélation de ce qu'il y a au ciel. Mes amis, il voit le sanctuaire céleste. C'est celui que Christ traversera plus tard, dans lequel il entrera, non pas avec le sang des agneaux ou de boucs, mais avec son propre sang. Il entrera dans ce tabernacle céleste une fois pour toutes. Oh, alléluia. Moïse voit. Ça veut dire que tout ce qu'il va reproduire, eh bien, ne sera que l'ombre, ne sera que le reflet, ne sera que quelque part quelque chose de visible qui reflète l'invisible. Tu feras ça d'après le modèle que je t'ai montré. Il ne pouvait pas faire n'importe comment. Il devait s'en tenir, mes amis, à la révélation qu'il avait eue là. Et en effet, il avait vu quoi? Ah ben, il avait vu ça, le trône, etc., les chérubins. Et il devait reproduire cela. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ces versets d'Exode 25-40, eh bien, il nous donne un éclairage nouveau. J'aimerais que nous lisions, je n'ai pas mentionné ça, Hébreux 8, verset 5. Écoutez ce que l'auteur inspiré déclare dans Hébreux 8, verset 5. Il dit ceci, c'est-à-dire les sacrificateurs de l'ancienne alliance, évidemment, célèbrent un culte, voilà. Ceci, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, célèbrent un culte, écoutez bien, qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ce n'est pas une invention de Moïse. Il n'a pas été dans une école religieuse où on lui a appris que voilà, tu construiras ceci, tu construiras cela. Non, il a reçu cela par révélation. Et le Seigneur insiste, fais tout selon le modèle qui t'a été montré. Alléluia. Donc, ce sanctuaire céleste était une copie du modèle divin. Les détails tels que nous le trouvons, eh bien, n'était qu'une copie, certes figée, une copie des réalités vivantes du ciel. Alors, avant d'aller plus loin, commençons par l'arche. L'arche de l'Alliance. Je voudrais demander à ce que le service audiovisuel Je balance l'image de l'arche, comme ça chacun de vous va avoir une idée de l'arche. Évidemment, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'images sur Internet, mais j'ai choisi celle-là, parce qu'il y en a d'autres, ben, c'est tellement décoré, etc. Voilà. Voilà comment se présentait l'arche. Vous avez là un rabbin, vous avez là les deux chérubins, qui se font face, ils sont l'un en face de l'autre, et les deux ont leur face tournée vers le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est ce couvercle doré qui couvrait l'arche, qui au fait était un coffre. D'ailleurs, c'est ça la traduction. Les versions latines, notamment la Vulgate, avaient traduit le mot hébreu Aaron par arche comme chez Noé. Et pourtant, en hébreu, on trouve deux termes différents. Le mot utilisé pour l'arche de Noé, c'est Teba. Oui, Teba. N'est pas le même utilisé ici dans Exode 25 lorsqu'il est question de l'arche. C'est Aaron. Mais bon, dans nos versions, on a traduit l'arche. L'arche, quelquefois, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'écriture sainte, ça crée un peu de la confusion. Donc voilà ce coffre-là. C'est ça l'arche. L'arche qui devait être portée par, vous voyez les anneaux, tout était en or, battu, en or massif, alléluia. Et le Seigneur a insisté que tout soit fait selon le modèle qu'il avait vu. Donc vous avez l'arche, et à l'intérieur, vous avez les tables de la loi, c'est-à-dire les tables sur lesquelles se trouvait le décalogue, les 10 commandements ou les 10 lois que Moïse avait reçues. C'était à l'intérieur. Et au-dessus de l'arche, vous avez justement le propitiatoire. Propitiatoire. Eh bien, on a traduit le terme hébreu par propitiatoire. Mais primitivement, au départ, propitiatoire, c'est ce qui couvre le péché et plus tard, ce qui enlève le péché. Voilà, c'est ça, c'est le couvercle de l'arche, c'est la couverture de l'arche et ce couvercle a les mêmes dimensions que l'arche, vous le voyez. Et ça vient, donc propitiatoire, ça vient du fait que là, sur le propitiatoire, on procédait à un rite de propitiation, ou si vous voulez, d'expiation. C'est là, entre les deux chérubins, c'est là que le souverain sacrificateur versait cette goutte de sang, là. Et il entrait là, dans le Saint des Saints, une fois l'an. On n'y allait pas comme ça, n'importe comment et quand on voulait. Mes amis, il fallait respecter toute une série d'instructions, des directives de la part de Dieu. Tout cela pour montrer à Israël, attention, le Dieu qui vous a délivré d'Israël, d'Égypte, le Dieu qui vous conduit vers la terre promise, n'a rien à voir avec toutes les divinités païennes. C'est un Dieu saint. On ne peut pas l'approcher n'importe comment. Puisque c'est un Dieu saint, il est aussi un Dieu juste. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir avec ses péchés se présenter devant lui. Il fallait d'abord que les péchés soient expiés. Oh, alléluia. Il fallait qu'un animal meure, que du sang coule, pour alors avancer et aller à la rencontre de ce Dieu-là dans le lieu très saint. C'était donc une plaque en or, un couvercle en or, orné de deux chérubins, vous l'avez vu, les kéroubim, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'hébreu, kéroub, un chérubin, kéroubim, des chérubins, donc au pluriel. Ces chérubins sont posés sur l'arche, donc sur le couvercle, sur le propitiatoire. Et tout cela placé dans le Saint des Saints, siège de la présence divine, et surtout, siège du pardon de l'Éternel. C'est là. On ne peut pas avoir le pardon autrement. Et plus tard, c'est parce qu'on n'a pas le temps. La Bible nous révélera que Jésus est notre victime propitiatoire. 1 Jean chapitre 2, oh alléluia. C'est lui qui a expié nos péchés par sa mort. Donc tout ce qu'on faisait, merci, tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, tout cela n'était que la préfiguration, n'était que l'ombre, mes amis, de ce qui allait venir, d'y aller venir plus tard. Alléluia. Et comme je l'ai souligné le vendredi, quelqu'un a dit à juste titre que les événements, quels qu'ils soient, sont toujours précédés par leur ombre. Alléluia. Eh bien, tout cela, tout ce que nous trouvons ici, des descriptions, et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux les dit, tout cela était l'image et l'ombre des réalités célestes. Et c'est là que le souverain sacrificateur versait du sang le jour de l'expiation ou Yom Kippour, et puis il en sortait, et puis il attendait l'année après, une année après, pour entrer dans le Saint des Saints. Mais dans le lieu saint, eh bien, les sacrificateurs entraient souvent parce qu'il fallait que le feu brûle sur l'autel des parfums, symbole de la prière, etc. Il fallait que le chandelier continue à brûler, donc il fallait entretenir tout cela. Il fallait qu'il y ait de l'huile pour que la flamme soit constante. Il fallait qu'il y ait de pain, de proposition, donc l'offrande, etc. Tout cela, eh bien, était maintenu par les sacrificateurs, mais quand, par l'entrée du Saint des Saints, c'était une fois l'an. Mais quelle grâce aujourd'hui, quelle grâce pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, d'entrer à n'importe quel moment dans le Saint des Saints céleste, d'entrer dans la présence du Seigneur et de l'adorer, oh alléluia. Nous n'avons plus besoin d'avoir quelqu'un qui nous amène en nous tenant la main, venez. Nous n'avons plus besoin d'un prophète, d'un bishop, d'un archevêque, je ne sais de qui. Lui a tout accompli. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est par lui, au travers de lui, que nous avons accès auprès du trône de la grâce, que nous entrons dans le Saint des Saints, où nous pouvons contempler le Seigneur dans toute sa gloire, où nous pouvons respirer l'oxygène céleste qui donne la vie, qui rend heureux, qui nous donne la victoire. Alléluia. Oui. Et au temps du Seigneur, ça c'est juste une information, quand le Seigneur arrive, eh bien, le Saint des Saints était vide. Donc, les gens, les sacrificateurs, ne se limitaient que dans le lieu saint, il n'y avait plus d'arche, parce que l'arche avait vraisemblablement disparu en 587, lors de la première destruction du temple. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez lire ça dans Jérémie, eh bien, l'arche a disparu, et quand Jésus arrive, il n'y avait plus d'arche. Tout ça a été prophétique. L'arche, avec la présence du Messie, n'aurait aucun sens. Alléluia. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre, car ils sont obnubilés. Voyez-vous, il y a un voile, comme Paul le dira plus tard, il y a un voile sur leur cœur. Et ce voile n'est ôté que lorsque nous croyons Jésus. À ce moment-là, nos yeux s'ouvrent, et nous réalisons que c'est par lui que nous avons accès au trône de la grâce. Alléluia. Mes amis, il y a tant à dire sur l'arche le propitiatoire, mais aujourd'hui et ce matin, je voudrais attirer notre attention très rapidement, la focaliser sur les deux chérubins en or. Ces deux chérubins aux extrémités du propitiatoire, vous l'avez vu. Un chérubin à chaque extrémité. Ils ont leurs ailes déployées vers le haut, recouvrant ainsi Le propitiatoire. Quelque part, ils étaient, et nous allons le voir, le trône du Dieu invisible, support de la majesté divine dont ils évoquent la présence. Dans 1 Samuel 4, verset 4, quand on parle de l'Alliance, de l'Arche de l'Alliance, dans cette arche dont nous avons vu la photo, la Bible nous dit, le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance des armées qui siège entre les chérubins. Désormais, l'Arche est ainsi nommée, l'Arche de l'Alliance du Dieu des armées, de Adonai des armées qui siège entre les chérubins. Dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 2, il est question de David qui se lève pour faire monter l'arche de Dieu. Et là aussi, David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit de Baalé-Juda pour en faire monter l'arche de Dieu, et on ajoute, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins au-dessus de... Alléluia. Pour la petite histoire, vous voyez, devant laquelle est invoqué le nom. C'est de là vient la tradition juive qui consiste à ne pas nommer le nom de Dieu, à ne pas l'appeler Adonai et tout ça, mais plutôt le nom, Hachem. Le Hachem. Et vous entendrez un jour vous dire, Bezrat Hachem, que le nom vous bénisse, que le nom vous accompagne. Vous voyez, c'est là, le nom. Vous voyez, devant qui? Nous l'avons lu, siège, l'Éternel des armées qui siège entre le chérubin au-dessus de l'arche, les chérubins. Dans 2 Rois 19-15, pour avancer vite, c'est l'histoire d'Ézéchias qui est assiégé, et durant ses sièges, alors il ne savait plus où aller, Ézéchias est monté au temple, à la maison de Dieu, pour prier. Et voilà, Ézéchias pria devant le Seigneur et dit, « Éternel, Seigneur, Adonai, Dieu d'Israël !» Et il ajoute, « Qui siège sur les... » C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Vous voyez, mes amis, qu'à chaque fois il est question, quand on parle de l'arche, de ce qui symbolisait la présence de Dieu, il est question des chérubins, l'Éternel qui siège au milieu des chérubins. L'Éternel qui siège, dont le nom est invoqué, devant le chérubin. Et c'est ça le détail, ou du moins la vérité qui nous intéresse aujourd'hui, les deux chérubins devaient se faire face l'un à l'autre. Et puis ensuite, nous l'avons vu, avoir leur face tournée vers le propitiatoire. Et le Seigneur dit, c'est là que je te rencontrerai. Oh, alléluia. Tournez l'un vers l'autre. Ils se faisaient face. Et le Seigneur dit, nous l'avons lu, j'aime beaucoup ce passage, c'est là, je te rencontrerai du haut du propitiatoire, verset 22, chapitre 25. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Dieu promet sa présence, n'est-ce pas? Dieu promet de rencontrer l'homme, mais il lui dit, c'est là. Sur le propitiatoire, entre les deux chérubins, que je te rencontrerai, que je te parlerai. Mes amis, nous voyons ici que le Seigneur donne une description claire des chérubins qui devaient orner le propitiatoire, en précisant, en faire force détail, comment ceci devait être fait. Ils étaient façonnés et représentés dans une posture
d'adoration.
Et se faisant face. Rappelez-vous, le Seigneur avait dit à Moïse, fais tout d'après ce qui t'a été montré. Donc ce qu'il réalise là, c'est-à-dire le propitiatoire avec les deux chérubins qui se font face, et puis ensuite leur face tournée vers le propitiatoire, tout cela, eh bien, était l'image de la réalité qu'il avait vue au ciel. Comme il ne pouvait pas prendre ces chérubins, ces anges, ces êtres célestes, les amener là-bas, Dieu lui montre, fais ça, car c'est là que je te rencontrerai. Pour que cette description, cette vérité devienne encore beaucoup plus claire, allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Et là, nous allons voir qu'effectivement, Moïse avait vu une scène extraordinaire de louange et d'adoration. Au verset 2, aussitôt, voilà ce qu'il dit, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône était assis quelqu'un. Alléluia. Le verset suivant, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc en ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. On n'a pas tout le temps de lire, mais je voudrais simplement vous résumer ce qu'il y avait autour du trône. 24 trônes sur lesquels étaient assis 24 anciens. Ces 24 anciens avaient des couronnes d'or. Et puis il y avait aussi 4 êtres vivants, mes amis, sur leur trône. Et ces 4 êtres vivants avaient des ailes. Oh, alléluia! Ils se prosternaient devant le Seigneur, proclamant au verset 8 du chapitre 4, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Donc, chacun avait 6 ailes. Ceci nous renvoie à l'expérience d'Ésaïe, au chapitre 6 de son livre. Là aussi, il avait vu des séraphins, une catégorie d'anges, eux aussi avaient des ailes, et aussi se prosternaient, et ils adoraient, oh alléluia, gloire au Seigneur. Et pendant qu'il voit ces anciens, ces 4 êtres vivants avec des ailes, il voit d'autres gloires célestes, il voit une multitude d'anges, et là, que voit-il au milieu du trône? Il voit un agneau. Versets 11 et 12 du chapitre 5. Du chapitre 5 cette fois-ci. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Fais tout selon ce que tu as vu. Moïse avait vu, hein? Ok. Autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, sagesse, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. Alléluia. Mes amis, la parole de Dieu est claire. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Les chérubins étaient là, dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Le trône de Dieu était là. Le trône du Seigneur était là. Voilà pourquoi le psalmiste nous dit, au chapitre 22 de Psaume, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il dresse son trône lorsque son peuple le loue. » Lorsque son peuple l'adore. Mes amis, nous voulons, il y en a qui vont en Corée du Sud, ou je ne sais où, à la recherche de la présence de Dieu. Eh bien, remplissons les conditions. Il dresse son trône. Il siège dans les louanges, dans l'adoration de son peuple. Nous voulons tous que Dieu habite parmi nous, oui ou non? C'est vrai qu'il est en nous. Mais nous voulons qu'il dresse son trône parmi nous lorsque nous sommes rassemblés. Lorsque, mes amis, nous sommes là. Oui, parmi nous. Et pour cela, Il faut que le propitiatoire soit bâti, ce trône sur lequel repose le siège du Dieu d'Israël, le trône selon le modèle divin, car c'est ce qu'il a promis, c'est là que je te rencontrerai, là sur le propitiatoire. S'il y a les chérubins, il y a la louange, il y a l'adoration. S'ils sont là, prosternés, ils sont dans une posture d'adoration. Mais vous aurez remarqué, mes amis, qu'ils sont l'un en face de l'autre. Voilà là où je veux amener chacun de nous. Ils se font face, ils se regardent. Est-ce le cas pour nous aujourd'hui? Pouvons-nous nous regarder face à face et adorer le Seigneur? Ou alors il y a des choses en nous qui nous empêchent, mes amis, d'être de véritables adorateurs, ceux qui sont face à face, les uns avec les autres, et puis ensuite, tous leur face tournée vers le Seigneur. Il faut l'unité. Nous le voyons, il y a les 24 anciens, il y a les 4 êtres vivants, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges, il y a d'autres rois célestes. Il y a l'unité, tous proclament, tu es digne. Un cantique nouveau, c'est comme si c'était une seule voix. Voyez-vous? Une voix de multitude, mais qui proclame les mêmes paroles. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, la richesse, la majesté. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que le Père est à la recherche de vrais adorateurs? Et les vrais adorateurs, comme il a dit, leur vient ce maintenant, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que l'Éternel cherche. Oui, nous sommes appelés à cela. Mais lorsque nous nous retrouvons, il faut qu'il arrive à dresser son trône parmi nous. Et pour cela, à l'instar des chérubins, eh bien, soyons tous face à face, cœur à cœur. Il n'y a pas d'obstacle. Je n'ai rien contre mon frère. Je peux le regarder. Rien contre ma sœur. Face à face. Et puis tous les deux, face vers le haut. Alors, la Bible nous dit, c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Alléluia. Et notre prière, et je termine par là, c'est le psaume 80, verset 2, que nous dit-il? Écoutez bien. Toi qui sièges entre les chérubins, parais dans ta splendeur. Voilà, nous voulons qu'il paraisse au milieu de nous, non? Mais il siège entre les chérubins, il siège au milieu de la louange de son peuple. Mais est-ce que, quand nous prions, quand nous adorons, quand nous sommes réunis ensemble, est-ce que nous lui donnons l'occasion de dresser son trône? Ou alors nous sommes assis l'un à côté de l'autre, avec des cœurs qui ne sont pas en phase? Voyez-vous, si tel est le cas, eh bien, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un préalable qui soit rencontré, l'unité spirituelle. À l'instar de chérubins, de tous ces 24, ces anciens, toute cette armée du ciel qui se prosterne et qui proclame, personne n'ose regarder celui qui est assis sur le trône. Il brille plus que tout le soleil de l'univers. Il se prosterne et proclame, comme un seul homme, l'agneau est digne. Oui, l'agneau est au milieu de nous. Alors nous allons prier. Alléluia. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, comme nous venons de le voir, tu sièges dans les louanges de ton peuple. Tu dresses ton trône, Seigneur, là où, ô Dieu, tes enfants sont unis. Lorsqu'ils se tiennent, Seigneur, face à face, cœur à cœur, ô Dieu, et tous tournés vers toi, alors là, tu parais dans ta grandeur. Et là, tu resplendis, ô Dieu, comme l'étoile brillante du matin. Et là, tu répands la vie et la bénédiction pour l'éternité. Seigneur, tu veux nous rencontrer. Comme tu l'avais dit à Moïse, c'est là, sur le propitiatoire, là où le sang coulait, là, les chérubins, entre les chérubins, Aide-nous à dresser ton trône, à te donner l'occasion de dresser ton trône, de siéger parmi nous dans une louange vivante, dans une adoration que tu agrées. Et pour cela, libère-nous, Seigneur, de tout esprit de division, de tout esprit de conflit. Enlève de nos cœurs tout ce qui nous dresse les uns contre les autres. Et donne-nous de marcher, ô Dieu, en nous tenant par la main, Seigneur, et en regardant vers toi, toi qui es assis sur le trône, qui es revêtu d'une lumière inaccessible, qui brille plus que toutes les étoiles de l'univers. Seigneur, et là, ensemble avec les anges, ensemble avec les chérubins, proclamez que toi, l'agneau de Dieu, toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, l'adoration pour les siècles des siècles. Merci pour tout. Merci, Seigneur.